En Bretagne, tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes spécifiques et qu'il faudra trouver des solutions spécifiques. Ce qui ne veut pas dire trouver des solutions pour la Bretagne contre les autres, mais il y a un cocktail particulier et tout le monde évoque le droit à l'expérimentation, le droit à la différenciation. Le problème, c'est que personne ne met le même contenu derrière ces mots. Pour les patrons de Locarne, l'enjeu, alors il y a bien sûr cette formule de Monsieur Glon qui explique que le problème de la Bretagne, c'est là, c'est la France. Mais ce qui intéresse Monsieur Glon, c'est pas du tout la Bretagne. C'est la dérégulation totale. C'est un modèle de pur libéralisme. Que ça se joue en Bretagne, en Franche-Comté, en Patagonie ou dans les Maramourèches, peu importe. La question, c'est celle de la dérégulation libérale. La Bretagne n'est qu'un prétexte pour ces grands patrons bretons. Ça, il faut en être bien conscient. Après, il y a d'autres dynamiques qui sont en jeu dans le mouvement des bonnets rouges. Si l'on regarde, alors les gens qui ont manifesté, qui se sont rassemblés d'abord à Quimper et puis à Carhaix à l'automne, c'est d'abord et avant tout les gens qui ont perdu leur emploi ou qui sont économiquement menacés. On cite Jean-Jacques Monnier, qui est un historien important de la Bretagne contemporaine, qui lui-même a manifesté, bien sûr, et qui assume tout à fait le port du bonnet rouge, et qui explique que la grande erreur, le grand drame du mouvement syndical, notamment, et d'une partie de la gauche, c'est de ne pas avoir fait bloc pour défiler contre ce qui était en train de se passer, pour défiler avec les salariés. Là, il aurait été possible de peser pour que véritablement ce mouvement des bonnets rouges apparaisse comme étant, sans aucun risque de confusion ou de récupération, comme étant un mouvement social posant des questions sociales, ce qu'il est fondamentalement.
Ce qu'il n'est plus.
Alors, ce qu'est aujourd'hui le mouvement des bonnets rouges, je crois qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Il y aura normalement, début mars, des états généraux. Il y a, je crois, d'après les informations que j'ai, il y a quelques dizaines de comités, peut-être une cinquantaine en étant généreux, qui sont actifs. C'est donc un mouvement qui est toujours là, qui regroupe un certain nombre de personnes. C'est pas négligeable, c'est pas non plus massif. On est dans une sorte d'entre-deux, si on voulait raisonner en termes de chiffres. Un mouvement qui doit définir sa stratégie. Les gens qui sont dans les comités des bonnets rouges, je vous rassure, ce ne sont ni des grands patrons, ni des nationalistes forcenés. Non, pas du tout. C'est plutôt des monsieur tout le monde, des madame tout le monde, des chômeurs, des travailleurs, des assistantes sociales ou des enseignants qui se posent des questions sur l'avenir de la région. C'est ça. Après, quelles solutions vont être trouvées? On verra bien. Il y a déjà des points de clivage qui sont très importants. Par exemple, les bonnets rouges et notamment le maire de Carhaix, Christian Troadec, appellent à la manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui aura lieu le 22 février.
Eh oui.
Tandis que les patrons de Locarne, qui s'étaient donc rapprochés du mouvement des bonnets rouges, eux seront peut-être aussi à Notre-Dame-des-Landes, mais de l'autre côté, pour attaquer la ZAD. On le sait notamment par des gens qui sont présents à Locarne. Donc là, il y a des points de clivage très importants. C'est pourquoi je crois qu'il serait totalement réducteur et mensonger et dangereux de vouloir résumer, dire les bonnets rouges, c'est ça ou c'est ça. On verra bien. En tout cas, nous, en tant que journalistes, on n'avait pas trop donné des réponses. On préfère poser des questions.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On verra bien. On verra bien. Merci beaucoup. C'était le Diplo de février. Merci à Serge Halimi, Gérard Prunier, Pierre Souchon et Jean-Arnaud de Reims. Merci aussi à Anne Calais-Chavanel. La stratégie du choc, on a cité ce livre chez Actes Sud, le livre de Naomi Klein, à lire et à avoir sous le coude. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, et faire un tour sur la page Facebook de l'émission Petit Garnement. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais et Michel Thomas. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparé avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. On se retrouve, non pas demain, mais lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Ça, c'est une photographie qui a été découverte seulement 30 ans après la fin de la guerre. La photo a été prise par le père de Marc Combier, qui était un photographe très connu, producteur de son métier de carte postale. Et il était photographe pour l'armée, mais il posait aussi des photographies personnellement. Il est le seul à avoir photographié à Fliré, près de Pont-à-Mousson.
Alors, on voit les soldats de dos.